Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?
Vacarme en réunion,
ce n'est pas une émission de radio. C'est un pli, un espace d'apparition. C'est un iceberg, un exercice de perception. Un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Le plus fort, au final, et le plus dur en même temps, c'est peut-être ce retour à la réalité. C'est réaliser combien ces 4 mois furent à part, furent un instant décalé, explosif et complexe. Et c'est voir soudain d'un nouvel œil ce qu'on était avant et ce qu'il y a maintenant. C'est revoir à la hausse ses ambitions de vie et de lutte. Comprendre que pour toi, comme pour beaucoup d'autres autour, ce mouvement n'était qu'une amorce, qu'un début, qu'il met en perspective ce qui n'en fait pas partie, ce qui fut et sera ta vie de part et d'autre de cette surprise dont on se remet doucement. Puis ça s'est calmé, doucement, avec l'arrivée de l'été. Ou plutôt, ça a bougé. La situation a basculé. Si ce mouvement a été un réveil, cet été fut peut-être la mise en branle de quelque chose de plus fort encore. Les premières esquisses d'un matin où soudain tu marcherais sur de nouvelles jambes. On sait que tout est lent, que tout semble infime, que les pouvoirs de l'argent et de la bêtise sont immenses et semblent insubmersibles. Que ces sursauts de vie, d'orgueil et de colère n'ont l'air parfois d'être que des parenthèses expiatoires rapidement reléguées au rang de détails. Mais il y a aussi cette intuition que c'est leur vie à eux qui est chiante et sclérosée, qu'il y a encore la possibilité de se créer des espaces de pensée et d'action, qu'il y a de quoi essaimer et contaminer les gens autour de soi, de quoi s'inventer de meilleures raisons de se lever le matin que celles qu'on nous impose. Il n'y a plus rien à attendre d'elles, d'eux, c'est cette idée qui s'est faite jour ici et aujourd'hui. Plus rien à attendre de la démocratie, de la légalité, du droit, des médias, du vote. Ça paraîtra naïf à d'autres sûrement. Mais les prises de conscience se font plus souvent à travers le vécu qu'à travers les mots de ceux qui ont compris plus tôt. Ça s'inscrit plus fort et plus longtemps. C'était dur de sentir l'explosion du printemps et de se calmer à l'arrivée de l'été. Mais d'autres choses se sont passées. À Bure, des murs sont tombés. À Nantes, un cercueil a été enterré. Partout, des mots ont été échangés, des regards aussi, des techniques, des espoirs. Chaque acte et chaque moment, en plus d'être subversif, est aussi l'occasion d'expérimenter, d'apprendre, d'appliquer l'autogestion, la vie en groupe, en restant toujours attentif aux grands et aux petites choses qui peuvent rendre le monde plus supportable. Maintenant, la question c'est de savoir ce qui reprend à la rentrée, ce qu'on construit, ce qu'on a appris du printemps et ce qu'a couvé l'été. Tu as peur qu'il n'y ait rien, mais ça ne dépend que de nous, de l'énergie et de savoir où la trouver et où la diriger.
Patatrac, mon anneau. Roule, roule, ma cagoule, patacrac, mon anorak, mes gros souliers, on ne voit plus que mon nez, moi je vais me promener, on ne voit plus que mon nez, moi je vais me
J'y vais à pied, je passe par les petites rues. Je croise les gens qui vivent leur vie, vont dans les magasins, attendent de commander leur menu bio 100% naturel, boivent un verre en terrasse, parlent tout seuls dans la rue. Bref, des gens qui continuent. Moi, je marche d'un pas vif, j'ai mis mes chaussures de rando. J'ai vérifié 3 fois que j'avais bien tout avant de partir. J'ai réitéré la technique du masque à gaz Vanderbra, juste au cas où. J'appelle les copains-copines pour savoir si elles et ils sont déjà sur place. Je me faufile entre les feux rouges et les lécheurs de vitrines. J'arrive au lieu du rendez-vous. Un groupe est en train de partir, drapeau, autocollant, aucun doute, voilà quelques rebelles qui tentent de rejoindre la place de la Bastille. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui nous attend. Est-ce qu'on va avoir droit à une fouille systématique comme les dernières manifs avant l'été, ou pas du tout? Est-ce qu'on sera nombreux? J'ai soudain l'impression de venir en touriste, de n'avoir pas révisé avant de venir, d'avoir passé mes 2 mois d'été à tout mettre en pause. Mes amis arrivent. Les échos disent que refuser la fouille, c'est chaud. Soit. Revivre une manif bocale n'est pas acceptable. En même temps, je me sentirais frustrée d'être venue pour repartir aussitôt. Oui, mais quel sens cela aurait-il? De crier vaguement contre une loi adoptée à coup de 49-3, entourée de flics en connaissant déjà la fin de l'histoire? Oui, mais à l'inverse, quel sens cela aurait-il de venir et de repartir? Ah, les mots tournent un moment dans ma tête, les amis attendent d'autres amis. On décide finalement d'y aller. Nous arrivons place de la Bastille, il est 14h30. Des flics partout, certes, mais nous rentrons sans fouille. Nous en sommes presque contents, nous nous sommes inquiétés pour rien. Je plaisante en disant qu'il y a quelques mois, nous venions manifester sans même nous poser la question. Il est évident pour nous tous que nous allons rejoindre la tête de cortège. Pour ma part, je me sens incapable de lancer un pavé sur quelqu'un, flic ou pas. Je n'ai aucun mal cependant à crier que je déteste la police, parce que je déteste l'institution policière. Quant à savoir si je déteste les gens, j'ai envie de croire qu'une partie d'eux-mêmes est largement conditionnée par la société, par leur formation, par leur éducation, et que certains sont juste réellement cons. Et quand on est con... Mais qu'importe ce que je pense, parce qu'en réalité je suis là, dans le cortège de tête, et si l'un d'entre nous se fait matraquer, je frémis, je trépigne, j'enrage. Parce qu'en réalité, si un flic s'enflamme, je frémis, je m'effraie, et je me dis qu'il est beaucoup mieux protégé que nous, qui sommes censés être protégés par eux. Alors est-ce que je suis une casseuse ? Le mot n'est pas très beau d'ailleurs. Casseur non plus, ce n'est pas très beau. Et ce n'est pas très beau, non pas parce qu'il y a le verbe casser dedans, mais parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas réel. Nous, cortège de tête, étions, il me semble, presque aussi conséquents que le cortège syndical aujourd'hui. Nous, cortège de tête, étions aussi hétérogènes qu'un banc de poissons peut l'être quand on prend le soin de le regarder de près. Nous, cortège de tête, étions là.
Ok, alors tu voulais peut-être revenir un peu sur ce qui s'était passé à Dijon et un peu partout ailleurs, c'est ça ?
Ben ouais, là c'est un peu le moment que tout le monde attendait depuis 2 mois et demi, de savoir s'il allait enfin avoir une suite, ou si les vacances allaient jouer leur grand rôle contre-insurrectionnel et faire que tout le monde se préoccupe plus que uniquement de sa rentrée.
De sa rentrée, ouais.
Et voilà, et du coup, hier, 15 septembre, un peu partout en France, c'était la reprise des manifestations contre la loi travail. Et tout le monde était un peu dans l'attente de savoir si ça y aurait une suite à tout ça ou pas. Mmh. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'un peu partout en France, il y a eu du monde dans la rue et que les gens étaient vraiment motivés, quoi. On peut lire des récits d'un peu partout qui racontent qu'il y avait une super ambiance dans la rue, que les gens étaient très heureux de se retrouver et puis de relever un peu la tête ensemble après ces 2 mois de matraquage médiatique. Sur la sécurité, les mensonges à propos de la mort d'Adama Traoré, les conneries à propos du burkini et tout ça, quoi.
Ouais. Et même les gens sont arrivés dans la rue plutôt en force, quoi. Enfin, pas du tout mou, et comme on aurait pu le penser, un peu, désœuvré ou à pas trop bien savoir quoi faire, etc. La rue a été investie vraiment pleinement et avec joie, quoi.
Comme on peut l'entendre, tous les sons qu'on vient de vous passer, là, c'est des trucs qu'on a enregistrés hier à la manifestation. Et il ne s'est pas passé particulièrement des choses qu'on pourrait raconter, si ce n'est le fait, effectivement, que les gens avaient la pêche.
Ouais, et ont repris la rue. Ouais, c'est ça, sans appréhension ou choses comme ça, quoi. C'était plutôt chouette.
Donc il y a eu des grosses mobilisations un peu partout en France. À Paris, il y a eu une très grosse manif. Le texte qu'on vient de vous lire, c'est un récit d'une manifestation parisienne où les gens avaient très peur que le dispositif policier d'encadrement de la manifestation empêche absolument tout. Encadre toutes les émotions, quoi, on pourrait dire, quoi. Parce que quand tu manifestes entre 4 lignes de flics surarmées, bah, c'est un peu difficile, même ne serait-ce que de chanter ensemble. Parfois, tu as juste envie de rentrer chez toi et c'est tout. Et puis voilà, là, c'était le récit de quelqu'un qui disait que c'était quand même malgré tout possible de rentrer dans la manif, de retrouver les gens. On a vu plein d'images de gens qui étaient vraiment déterminés à être ensemble.
Il y avait quoi, 40 000 personnes, tout ça, à Paris, selon les syndicats?
Ouais, c'est ça.
Et à Dijon, c'est combien il y avait de... histoire de comptabiliser un peu mais...
Non, je sais pas. Je dirais que c'était pas équivalent aux plus grosses mobilisations d'avril, mais qu'il y avait plus de monde que dans les dernières de juin, quoi.
Il y avait la CGT, FO, enfin classique, quoi, les gens un peu...
Ouais, il y avait avait un gros cortège syndical, enfin un gros cortège. Disons que maintenant, pour les gens qui ont la bizarrerie de ne pas encore être allés dans la rue ces 6 derniers mois contre la loi travail, toutes les manifestations contre la loi travail sont formées d'un cortège qui a comme deux parties, et on retrouve ce truc-là partout en France, c'est-à-dire un cortège syndical avec les bannières, les chars de la CGT,
assez classique,
etc. Assez classique. Et devant ce cortège-là, une masse de gens qui ne sont pas syndiqués et qui ne veulent pas forcément être affiliés à un syndicat ou une organisation particulière. Qui sont, il y en a beaucoup qui sont jeunes, du coup on dit souvent que c'est le cortège jeune ou le cortège étudiant. En fait, il y a des gens d'un peu tous les horizons, quoi. Ce qui est particulièrement vrai à Paris, où quand tu regardes les vidéos de ce qu'on appelle du coup maintenant la tête de cortège, eh ben, y a vraiment des gens de tous les horizons, quoi.
Et en fait, ces personnes-là ont pris la tête du cortège, quoi, et impulsent une dynamique, une direction, etc. Chose qui avant n'était pas. J'ai l'impression que plutôt ces personnes-là qui avant venaient aux manifs étaient en fin de cortège, quoi.
C'est un truc assez nouveau là, qui est apparu dans ce mouvement contre la loi travail. C'est la quantité de gens qui ne se reconnaissent plus, moi je dirais, dans les directives syndicales, peut-être parce que simplement ils font plus partie du monde du travail, ou je sais pas, il faudrait réfléchir longuement à ça, quoi. En tout cas, qui veulent plus simplement être là parce qu'ils sont affiliés à une organisation, un collectif ou je ne sais quoi, et qui du coup veulent venir de façon autonome, quoi, on pourrait dire, quoi, c'est-à-dire s'organiser hors de tout ça. Et effectivement, avant, ce qu'on appelait les cortèges autonomes, ils étaient plutôt en queue de manif. Et là, c'est la grande différence, c'est que maintenant, ces gens-là sont toujours placés en tête de cortège, quoi. Et ils sont autant que les masses syndicales, quoi, je dirais.
Ouais, complètement. Hier, c'était un peu. Enfin, en tout cas, il y avait 150 personnes devant.
Je pense qu'il y avait plus que ça. Mais
ouais. Ah ouais. En tout cas, c'était plutôt joyeux, effectivement. Mmh. Ça donnait un certain rythme, un certain ton à la manif, notamment vis-à-vis des flics et des. Enfin, voilà. Et les choses se passaient de manière beaucoup moins tranquillement pour eux aussi, quoi. Mmh. Et c'est une chose qui est assez chouette, une dynamique qui est assez chouette dans les rues parce que voilà, c'est l'affirmation d'une. Je sais pas quoi, un certain conflit envers la police, envers de qu'est-ce qu'on fait dans la rue, à qui est à la rue, etc. etc.
Ouais, je pense que c'est l'autre chose qui est assez consensuelle dans ce cortège de tête, qui du coup n'a pas d'étiquette, mais en tout cas il y a deux choses qui font consensus parmi les gens, c'est donc cette autonomie dont je viens de parler, et puis la volonté de faire face aux pratiques policières, quoi, de vouloir dénoncer les violences policières, de ne pas vouloir faire les manifestations dans les cadres établis par les dispositifs policiers, et de revendiquer le fait qu'une manifestation, c'est les manifestants qui dirige où elle va et comment elle se fait, quoi. Et du coup, effectivement, une grosse hostilité contre la police pour les empêcher d'arrêter des gens, etc., quoi. Et le slogan, les slogans comme « tout le monde déteste la police » ou « cassez-vous », c'est des choses qu'on entend toutes les deux minutes dans les cortèges de tête, quoi.
Cassez-vous, 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 cassez-vous.
Voilà, pour ce qui est de l'ambiance en tête de cortège. Voilà, effectivement, c'est l'ambiance et on hue les flics, quoi. C'est une bonne.
C'est la huée populaire.
Ouais, on rigole, mais il y a quand même, il y a quand même des choses un peu graves et tendues qui se passent dans ces manifs, notamment un gars là qui, hier, à la fin de la manif à Paris, s'est fait borner. A priori, il aurait perdu un œil.
On ne sait pas s'il l'a perdu ou pas, son œil, mais en tout cas, il s'est fait blesser très grièvement à l'œil. Il y a eu plein d'images un peu spectaculaires de lui, là, dans Libération, dans Le Monde. Bon, comme d'habitude, si vous écoutez Vacarme Réunion ou si vous êtes dans la rue, voilà, on sait, les flics ont des armes qui disent non létales, c'est-à-dire que le but, c'est de ne pas te tuer pour pas faire de scandale politique, mais de te blesser et de te mutiler suffisamment gravement pour que t'aies pas envie de revenir, quoi. Du coup, voilà. Encore le flot des gens qui perdent des yeux, enfin voilà, qui sont blessés grièvement.
Depuis que le lanceur de balles ou alors le flashball, etc., sont dans les mains de la police, il y a quand même vraiment beaucoup de gens qui ont perdu des yeux, etc., etc. Dont le premier, c'est en 98, je crois que c'est un gars dans une cité de Paris, une cité parisienne, qui est un père de famille qui se fait borner. Il y a un truc assez intéressant d'ailleurs, peut-être on le mettra en lien sur le site internet, c'est une interview d'un gars qui lui a perdu son œil il y a longtemps, qui s'appelle Pierre Douillard-Lefebvre. Qui l'a perdu à Nantes. C'est ça. Et qui sort un bouquin qui s'appelle L'arme à l'œil. Et voilà, c'est son interview, elle est assez classe parce qu'elle recontextualise qu'est-ce que l'armement de la police, qu'est-ce que les outils répressifs et quel terrain de test pour ça, quel laboratoire, enfin, avec notamment les cités, etc. etc. Voilà.
La veille de cette manif, le 14 septembre, il y a eu aussi l'annonce de la déposition d'un gros dossier au Défenseur des droits. Je ne sais pas si on peut dire un dossier, mais...
C'est plusieurs dossiers, en fait. C'est 104 témoignages de violences policières qui ont été déposés au Défenseur des droits. Donc le Défenseur des droits, c'est un gars qui est indépendant, qui représente pour le ministère de la Justice une forme d'institution indépendante et qui instruit des dossiers sur des plaintes qu'il reçoit, que ce soit pour les prisons, c'est souvent pour les prisons avec le contrôleur des prisons. Et là, il reçoit donc 104 témoignages qui donnent lieu à 68 cas de procédures qui vont être instruites, procédures qui vont passer devant le juge. Et ces procédures, elles ont été déposées en fait en juillet, je crois, pendant la trêve estivale du mouvement social là. Et c'est des procédures qui sont complémentaires à celles déposées auprès de l'IGPN, donc la police des polices qui instruit donc toutes les plaintes qu'elle reçoit sur les comportements, les agissements de la police, notamment parce que l'IGPN est jugé partie en fait. C'est des flics qui instruisent sur des faits produits par les flics.
Et c'est ce qui explique que les trois quarts des plaintes, qui étudient sur ces questions-là, disent que c'est la plupart des plaintes contre les flics
n'aboutissent jamais.
Quoi.
Ouais. Là, c'est le collectif, donc c'est Collectif Stop Violence Policière. Et ce collectif-là, effectivement, il dit que la plupart des gens qui vont poser des demandes de plaintes à des flics contre des flics, souvent se font rembarrer, mettre la pression, ou alors on minimise leur plainte, etc. etc. Enfin, voilà. Donc là, c'est ce collectif-là qui a posé auprès du Défenseur des droits 68 cas qui vont être examinés sur des violences policières qui ont notamment eu lieu pendant le mouvement social contre la loi travail. Et donc eux, ce qu'ils disent, c'est que agir et être à l'œuvre en ce moment là, c'est une doctrine décomplexée du maintien de l'ordre. C'est ni des bavures, ni des expressions d'une fatigue de la police, mais c'est des exactions violentes qui sont institutionnalisées, quoi. C'est-à-dire qu'on c'est maintenant comme ça que les flics se mettent à gérer le maintien de l'ordre. C'est-à-dire c'est plus du tout dans une manière de contenir les foules ou assez lointaine en lançant des lacrymos, etc., ou peut-être en faisant des charges, mais qui éloignent, qui repoussent. Là, c'est en utilisant véritablement les flashballs, donc ce qu'on appelle les flashballs maintenant, qui sont des lanceurs 40, là, où je sais plus comment on appelle ça, peu importe, mais qui lancent des balles en caoutchouc qui tirent sur les manifestants, et avec l'usage des lacrymos en tir tendu, et avec l'usage des grenades de désencerclement, qui ont notamment tué Rémi Fraisse, peu de temps, et puis qui là encore ont blessé ce journaliste là qui est resté très longtemps dans le coma, et puis qui maintenant a des liaisons cérébrales, etc. etc. Bon voilà, donc c'est tous ces dossiers de violences policières qui vont passer devant le Défenseur des droits, qui vont être instruites par le Défenseur des droits, et on s'en réjouit pas mal parce que les flics sont jamais accusés, sont jamais, écopent jamais de, ou très très peu souvent de peine par rapport à des violences qu'ils font sur n'importe qui. Et donc le collectif Stop Violence Policière, ils ont un mail, c'est violence au pluriel policière au pluriel tout attaché @riseup.net. Voilà, si vous-même vous avez, je vois, des dossiers à balancer là-bas.
Et sur Dijon, c'est possible de contacter la Caisse de solidarité contre la répression, qui est un collectif qui aide les gens face à la justice, mais qui fait aussi ce travail de recueil de témoignages sur les violences policières. Et vous pouvez les contacter à caisse-de-solidarité@brassicanigra.org. Mais on vous remettra ça sur le site.
Ouais. Et toujours dans la lignée des bavures policières, des violences et des meurtres policiers, il y a en fait un article qui est sorti il y a pas longtemps hier par rapport au témoignage du pompier qui a été le premier secouriste à intervenir sur les lieux auprès d'Adama Traoré, donc qui est le mec qui s'est fait buter, là, le mec de 24 ans qui s'est fait tuer par la police il y a 3 mois de ça. Et il y a un témoignage qui a été recueilli par l'IGPN et qui vient contredire ce que les gendarmes, et notamment le responsable de l'unité qui intervient pour maîtriser, interpeller Adama Traoré, et qui vient contredire ce que lui il dit. Parce que notamment ce gars-là, quand il arrête Adama Traoré, qu'il l'arrête avec un plaquage ventral, là, qui est une espèce de technique d'interpellation qui est barbare, quoi, enfin, qui à plein de moments entraîne l'asphyxie et la mort pour pas mal de gens. Enfin, y a plusieurs cas comme ça en France, et qui est dénoncé par tout un tas d'organismes, enfin, d'associations, de défenseurs des droits, etc., etc. Et le sergent-chef des pompiers qui arrive, qui est le premier à intervenir donc dans la cour du commissariat, là, où Adama Traoré est tendu par terre, il dit les flics n'ont pas du tout mis Adama Traoré en position latérale de sécurité, ce que les flics annonçaient dans leur déposition, ni n'ont observé, comme ils le disent, une attention constante à son état de santé, puisqu'en fait, quand les pompiers arrivent, Adama Traoré ne respire plus et n'a plus de pouls. C'est vraiment assez bien qu'il y ait ce témoignage qui sorte là, parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une espèce de, ben voilà, de gestion classique des meurtres policiers par le gouvernement, par l'institution française, etc. C'est de tout temporiser, de cacher, voilà, d'essayer de vraiment de faire que les choses ne débordent pas et qu'elles ne se sachent pas. Et donc il y avait plusieurs acteurs là-dedans. Donc les flics ont menti dans leur déposition. Évidemment, les flics n'ont rien fait, donc c'est ce que dit le pompier. Mais en plus de ça, ils disent les flics ont menti, puisque dans leur déposition, ils disent qu'ils ont fait des trucs, mais qui a priori, lui, il arrive, il dit voilà, je suis formel, il n'est pas en position latérale de sécurité et il respire plus et il n'a plus de pouls. Et en plus de ça, il y a ce procureur là, qui est Yves Janier, ouais, qui est le procureur de Pontoise, et qui lui a complètement pourri le dossier, enfin dans le sens couvert ses équipes, quoi, couvert ses flics, en disant que voilà, Adama Traoré, suite à la première autopsie, on voit qu'il a des liaisons, qu'il avait une maladie très importante, que c'est sûrement lié à ça, à sa mort, etc., etc. Enfin voilà, il balance des fausses pistes et lui aussi il ment. Tout le monde ment, quoi. Et c'est une espèce de gestion assez classique finalement des meurtres.
Mais je pense que les élus, enfin tous les gens qui s'expriment dans ce genre de moment, ont beaucoup moins peur qu'on l'on découvre un mois après qu'ils ont menti, puis voilà, ça rentre dans l'espèce, ouais, de cynisme général de « oui, comme d'habitude, ils nous mentent », plutôt qu'il y ait une explosion de colère face à ça, quoi. Il y a vraiment une espèce de gestion de la colère, à essayer de manipuler les gens pour retarder la réaction de colère par rapport aux faits bruts, quoi. Ouais. C'était exactement ce qui s'était passé au moment de Rémi Fraisse, et voilà, quoi.
Et c'est ce que dit le pompier, il dit aussi, donc il y a toute la déposition du flic là, enfin, on n'a pas vraiment accès, mais en tout cas Le Monde et Libération en parlent pas mal, et le pompier dit, quelque chose à rajouter, le pompier dit oui, bien sûr, la chose que j'ai à rajouter, c'est que les gendarmes, moi quand je suis reparti, la première des choses qu'ils disent avant de prévenir la famille, ils disent va falloir qu'on mobilise des unités en plus, parce que là ça va être sacrément le bordel quand ils vont apprendre ce genre de choses, quoi. Et voilà, c'est ce que tu dis, il y a une gestion de... une gestion du meurtre policier qui est bien rodée en France, et dont là on en découvre, en tout cas on s'en rappelle les mécanismes de manière assez franche et claire, quoi. En fait, c'est exactement le même scénario que pour Malik Oussekine en 86, où c'est un témoignage du secouriste qui intervient auprès de ce gars-là là, qui va mettre en cause les policiers, et ça se trouve c'est ce qui va se passer là, ça serait quand même assez bien.
Mais je pense, au-delà de répéter une nouvelle fois que les médias mentent ou que les élus mentent, etc., il faut vraiment absolument tous prendre l'habitude de douter de toutes les versions policières quand il y a un événement tragique de ce genre-là qui se passe, quoi.
Ou n'importe quel événement, en fait. Enfin...
Oui, mais c'est-à-dire quand ils parlent des trucs politiciens à la con, peut-être on s'en fout plus, quoi.
Oui.
Mais effectivement, particulièrement dans les moments où un événement peut entraîner un élan de colère, absolument douter complètement de la version policière et vraiment chercher les informations des proches, des gens du quartier,
des
gens,
associations,
voilà,
qui connaissent, ouais, etc.
Parce que là, par exemple, on va vous passer, c'est pas très long, c'est 4 minutes, des proches d'Adama Traoré qui racontent comment s'est passée son arrestation, et eux disent qu'ils ont absolument pas eu le moindre doute sur le fait que c'est effectivement une bavure policière, quoi. C'est-à-dire que, voilà, c'est vraiment parce qu'on est très loin, qu'on regarde tout ça de très loin et qu'on se fait... monter la tête par les médias, qu'on se permet de dire « Ah, peut-être il est mort asphyxié, quoi. » Quand on va écouter ses proches, quand on va écouter les gens qui étaient là, il n'y a évidemment pas le moindre doute dès la première minute, quoi.
On est assis au centre-ville, moi et mon petit frère, et nous interpeller, arriver à la gendarmerie, mon frère, il est mort. Ils l'ont coursé, ils l'ont frappé, j'ai vu. Il était pour mort, il était encore menotté. Ils étaient autour de lui, mon frère ne bougeait plus. Et de 18h jusqu'à 8h du matin, le corps il est resté à la gendarmerie. J'ai vu le gendarme, il est parti avec un t-shirt tout blanc, il est revenu avec un t-shirt plein de sang. C'est normal ça. Et il a pas de plaie, lui. C'est le sang de mon frère qu'il a sur le t-shirt. Ils ne savent pas pourquoi, ils essaient d'inventer, dire c'est une crise cardiaque. Mais rien du tout de crise cardiaque, c'est eux qui l'ont frappé, c'est sûr.
On ne peut pas tuer quelqu'un comme ça, on ne peut pas tuer quelqu'un comme ça. Il n'y a que à la police qu'on meurt dans leurs locaux. Il n'y a que chez eux qu'on meurt dans leur voiture. J'ai envie de dire à tous les Noirs et tous les Arabes, arrêtez, c'est votre frère, c'est votre fils qui va mourir demain par les gendarmes qui sont là pour nous sauver,
ils sont censés
apporter notre sécurité. Mais je ne sais pas si où on va, on est en France ou on est où là. Moi, j'ai peur demain de me faire arrêter par la police. Et si je meurs, eh bien, c'est pas grave, j'aurais fait juste un malaise. C'est facile les malaises, hein. Mais il n'y a que chez eux qu'on meurt, on meurt avec des malaises. Mon frère, il a 24 ans, il est en pleine forme.
C'était le jour de son anniversaire.
Mais bizarrement, il a fait un malaise. Le jour où ce sera votre fils ou votre frère qui va mourir, vous serez dans mon état. Et vous allez voir ce que ça représente. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde se mobilise parce que ça peut arriver à tout le monde. C'est la police qui l'a tué. C'est pas des voyous, soi-disant. Si la police ne nous protège pas, qu'est-ce qu'on fait alors? C'est les jeunes qui vont se protéger tout seuls.
Il s'arrête et donc il ne voulait pas vous laisser rentrer.
Voilà, il ne voulait pas nous laisser rentrer, donc on a fait pression. On était pas mal. Au début, on était que avec les mamans, etc. On était une dizaine. Comme j'ai dit, ils nous ont mis des coups d'extincte, ils ont tiré la bombe acrymo, etc. Sur les mamans, tout. Et voilà, toute la famille, tous les amis, tout le monde se questionnait, voulait savoir ce qui s'est passé réellement. Donc on a fait pression et de là, on a réussi à négocier que la maman puisse rentrer, au moins savoir l'histoire, selon la police, hein, je dis bien selon, entre guillemets. Donc ils sont partis, ils ont 15 minutes après, la maman revient nous voir, on était tous devant. Et elle nous apprend que Adama est mort. Est mort d'une crise cardiaque selon eux, mais on sait tous, on a tous grandi ici, on connaît tous, c'est un sportif, c'est un mec qui faisait de la musculation, c'est un mec qui faisait du foot, il n'a jamais eu de problème de souffle ou quoi que ce soit.
Il était aimé de tous.
Et c'est impossible qu'il soit mort d'une crise cardiaque ou quoi que ce soit.
Donc pour vous, il y a...
Je ne crois pas, il y a bavure policière.
C'est ça, c'est sûr à 2000%. Donc il y a pire qu'une bavure, c'est pire qu'une bavure alors. Donc suite à ça... Pas mal de mecs du quartier se sont sous le choc. Hein. On perd quelqu'un, on perd un frère à qui on a grandi, on perd quelqu'un qu'on a vu la matinée. On apprend le soir, il est mort en plus de par la police, de la faute de la police. Donc, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et tout le quartier s'est mobilisé. Il y a eu des affrontements avec les gendarmes. Les gens ont fait ce qu'ils pouvaient. Il fallait faire du bruit, il fallait se faire entendre.
On est arrivé.
Voilà, c'était des proches d'Adama Traoré qui revenaient sur ce qui s'est passé cet été. Et c'était juste, ça c'est un reportage qui a été fait, qu'on trouve sur internet, qu'on vous remettra sur le site. Et c'est des témoignages qui sont faits sur le vif, quoi. C'est-à-dire que quand les journaux sont surpris aujourd'hui d'avoir le témoignage de ce pompier, c'était juste pour réaffirmer le fait que, évidemment, quand on est proche de ce qui s'est passé, on voit bien le mensonge médiatique et la construction de ça, quoi. Et voilà, et du coup, c'était une manière d'inviter les gens, de nous inviter tous à douter et à aller chercher les informations à la source, quoi. Voilà, pour finir sur cette espèce de chronique sur les violences policières, malheureusement, j'ai peur que ce soit pas la dernière de l'année, mais voilà. Aujourd'hui, dans les journaux, donc on est vendredi, on n'est pas en direct, aujourd'hui, dans les journaux, on pouvait lire que Joel Feno, un rappeur de Paris, allait être attaqué en justice par plusieurs syndicats de la police et aussi par Cazeneuve pour une chanson qu'il a faite qui s'appelle Bavure et qui appellerait à la haine anti-flic. Et voilà, les policiers sont scandalisés qu'on puisse dire dans une chanson qui tue des gens qu'on appelle comme ça les jeunes à se rebeller et à arrêter de se laisser faire. Donc ils sont très très choqués, ils sont très très outrés, ils en ont marre comme ça, ils appellent ça la haine anti-flic. Et du coup, bah, évidemment, on vous l'a fait écouter parce qu'elle nous plaît. Donc c'est Joel Feno, ça s'appelle Bavure.
L'un d'entre eux vient d'adresser un geste insultant aux forces de l'ordre. Les agents ne peuvent pas laisser passer une telle offense.
Aujourd'hui, venons les roses. Là, ils sont 3-4
dans la nuit, 120 rue du Bocage, on va avoir besoin de renfort, il y a un individu qui veut pas se laisser contrôler.
pisse sur la justice et sur la mère du commissaire. Chacal c'est triste, trop de nos frères sont partis à cause d'une bavure policière. Hein? Leur donner du respect évité. Sans hésiter, faut les fumer. Sous commission et la cité, à notre tour de prendre des clichés. Souriez, vous êtes filmés. Bande de putains, vous n'êtes pas qu'à tourner et baver. Planter et passer aux aveux, enchaîner les bavures et mentir aux baveux. T'as vu, c'est celle du plus fort ici. C'est pas la police qui fait la loi. Leur tête a bougé dans le freestyle, moi. Et maintenant, Zerma, ils en veulent à moi. Les petits chez moi, vous ont hurler. Les condés passaient plus dans la cité. Pour ça qu'au final, les GP sont brûlés. Les médias vous couvrent, hein. Mais nous à la banane, on vous voit comme des chagas. Vous avez la frousse, hein. Des animaux sauvages appelés les chacals. Où sont les condés? On va les dompter. Combien décédés? On peut plus compter. Où sont les condés? On va les dompter. Combien décédés? On peut plus compter. Et vont se défouler sur la flicaille. Veulent pas boire de lait au petit déjeuner. Mais je sais farcir de la volaille. Nos couilles sont bétonnées. Ce qu'on veut c'est la guerre pas la bataille. Ils nous font pitié alors peut-être qu'on est un peu obligé de les hacker. Niquer du cerveau déterminé. Arnie du petit au plus âgé. L'époque des contrôles elle est terminée. Armer les brûlés sont plus âgés. Vous rafaler pour se soulager. Et faire couler les larmes de vos mères. C'est eux les tueurs faut pas mélanger. Ils vont assassiner beaucoup de nos frères. Leurs enquêtes à la télévision sont faites pour nous diviser. Calculez pas leurs émissions. En vrai, ils savent qui viser. Les médias vous couvrent, hein. Mais nous à la banane, on vous voit comme des chacas. Vous avez la frousse, hein. Des animaux sauvages appelés les chacals. Où sont les condés? On va les dompter. Combien décédés? On peut plus compter. Où sont les condés? On va les dompter. Combien décédés? On peut plus compter.
Et maintenant, notre page ZAD, avec Nico, notre envoyé spécial à la Notre-Dame-des-Landes, où vont peut-être se dérouler quelques échauffourées d'automne.
Ben salut Nico,
Salut, salut.
Donc on t'appelle en direct de la ZAD, c'était la suite de notre émission et du déroulé de notre émission. Et on voulait que tu nous causes un peu de comment ça se déroulait là-bas sur site, notamment par rapport aux diverses annonces du gouvernement, de la presse, etc., à l'éventuelle expulsion de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se trame concrètement?
Eh bah, bien, bon, il faut dire que rien n'est joué, quoi, qu'on sent la menace de plus en plus palpable de la possibilité d'une nouvelle opération César, d'une nouvelle tentative d'expulsion de la ZAD par le gouvernement en octobre. C'est un peu ce qu'avait annoncé Valls au printemps dernier, alors que d'ores et déjà, il y avait une série d'actions, de grosses manifestations, de blocages qui avaient mis un peu en déroute leur volonté de venir expulser la ZAD. Au moment où, au printemps dernier, ils avaient relancé des procès sur les paysans historiques. Et puis, peut-être certains auditeurs, même de l'Est, s'en souviennent, ou peut-être ils ont entendu parler par le biais des médias, ou parce que des gens étaient venus sur place, etc. Il y avait eu toute une série de grosses manifestations sur le périph' nantais, sur les quatre voies autour de la ZAD le 27 février, avec des dizaines de milliers de personnes qui étaient venues pour signifier qu'ils ne laisseraient pas la ZAD se faire expulser. Vous m'entendez toujours?
Ouais, impeccable, hyper bien.
Ok. Et voilà, et en fait, le gouvernement, suite à ça, a annoncé une consultation publique, une espèce de voix pseudo-démocratique complètement biaisée par lequel il entendait faire voter les habitants de Loire-Atlantique sur leur volonté de voir un aéroport apparaître sur les terres du Bocage à Notre-Dame-des-Landes. Et en fait, le mouvement dans son ensemble a dénoncé l'arnaque, la vaste fumisterie que représentait cette consultation publique, en montrant à quel point elle était biaisée, inéquitable, la manière dont eux choisissaient le périmètre, posaient les questions, avaient les moyens qui étaient les leurs, celui des dirigeants, des lobbies pro-aéroports, etc., pour asseoir par une voie soi-disant démocratique leur décision, leur volonté de transfert de l'aéroport. Il se trouve qu'en juin dernier, le 26 juin, il y a eu le résultat de cette consultation qui disait que 54% des personnes votantes, c'était 55, ils ont eu 50% de participation à ce vote, et sur ces 50% de la population votante de Loire-Atlantique, il y a eu 54% de personnes qui ont voté pour le transfert de l'aéroport. Mais ça n'a pas du tout découragé l'ensemble du mouvement, puisque le soir même, il y avait une ambiance assez folle dans la grange de la Vacherie, où voilà, tout le monde criait résistance, et le mouvement a appelé à continuer la lutte, à continuer à cultiver la ZAD, à l'habiter, etc. Et du coup, depuis lors, c'est toujours l'ébullition sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, sur cette zone libre, depuis 4 ans, dans lequel un peu les institutions d'État et les pouvoirs économiques n'ont plus vraiment prise, mais avec effectivement cette menace qui pèse pour l'automne, le fait que cette zone libre est de plus en plus insupportable pour le gouvernement Valls, le fait aussi que ce projet d'aéroport et sa mise en échec inspirent tout un tas d'autres luttes par ailleurs. Et du coup, le Premier ministre a dit qu'il viendrait expulser à l'automne. On ne savait pas encore s'il mettrait cette menace à exécution, mais on a un peu pris les devants sur place. Et c'est-à-dire qu'on a annoncé une grosse manifestation dans le Bocage pour le 8 octobre. Ça, c'est une chose, c'est-à-dire qu'il y a un appel un peu massif à venir sur la ZAD. Là, ce sera plus à Nantes, ce sera plus sur les Cadois. Cette fois, vu que c'est la ZAD qui est directement menacée d'une intervention, que peut-être ils auront débuté ou que peut-être ils entendent débuter juste après le 8 octobre. Il y a vraiment l'idée que tout le monde vienne sur place avec un appel un peu particulier, un appel à ce que chacun vienne muni d'un bâton. Alors l'histoire des bâtons, c'est un peu un hommage et aux luttes du Larzac et à tout un tas de luttes paysannes. Avec l'idée en fait de venir manifester avec des bâtons, de les planter sur place, et puis de faire un espèce de grand serment collectif qui dit s'ils viennent expulser la ZAD, tout le monde, tous ensemble, on viendra reprendre les bâtons et s'en servir pour défendre la ZAD. Du coup, ça c'est un des aspects de cette manifestation du 8 octobre, pour laquelle il y a des comités d'un peu partout en France qui se préparent, qui mobilisent. Il y a des bus, d'après ce que j'ai compris, qui partiront de Bourgogne-Franche-Comté, des gens qui s'organisent notamment autour de la Confédération Paysanne et des comités locaux, même autour du coin de Dijon. Et puis c'est aussi une manifestation pendant laquelle, vu qu'on se prépare à défendre la zone face à une nouvelle invasion militaire, on va construire des hangars qui pourront servir de lieux de défense, d'assemblée, de ravitaillement, de points de base arrière en cas d'attaque de la zone. Du coup, cet après-midi même, on est en train de démonter un hangar qui sera remonté sur la ZAD à ce moment-là, lors du 8 octobre. Et puis, il y a aussi 80 charpentiers dans les semaines passées qui sont venus faire un grand chantier du coup de charpente traditionnelle pour préparer en kit un hangar qui sera monté ce jour-là. Et pour finir un peu sur cette manifestation du 8 octobre, qui est un des points de la défense de la ZAD, ce sera aussi un moment où il y aura une grande fête, et ce sera suivi aussi, si la menace persiste, de chantiers défensifs un peu sur toute la zone le samedi, le dimanche, une invitation aux personnes qui seront venues à la manif aussi pour défendre la zone.
Parce que là, vous avez fait des week-ends de formation à la défense de la ZAD, non ?
Oui, voilà, alors ça c'est un des autres aspects, du coup un peu tout se remet en place, comme je disais, c'est un peu l'ébullition, là il y a eu des annonces gouvernementales qui sont un peu, on va dire, pas précisées, puisqu'il n'y a pas eu de nouvelles prises de parole du Premier ministre ou de Hollande, mais néanmoins, cette semaine, le préfet a levé à faire un arrêté préfectoral qui permet le déplacement du campagnol amphibie, du coup une des petites bêtes qui est protégée sur la zone et qui était un arrêté qui leur manquait pour expulser la zone. Du coup ça a été vu comme un signe un peu, on va dire, de préparation de leur côté de la possibilité de déclencher l'opération militaire. Et du coup il y a tout un tas de choses qui se remettent en place, et notamment il y a des week-ends tous les week-ends du mois de septembre et jusqu'à octobre, il y a des formations pour défendre la ZAD. Alors c'est un peu fou, on est un peu submergé par la volonté de tout un tas de gens de partout d'être prêts pour ne pas laisser expulser la zone. Et c'est chaque semaine plus de 100 personnes qui viennent les week-ends et avec des informations médicales, des informations légales, comment se former en groupe, comment connaître la zone, comment penser des moyens pour mettre en place des techniques diverses et variées de défense. Et c'est sûr que ça a été très mal vu, notamment par le président de région, qui est cette espèce d'horrible type qui fait un peu son beurre politique et sa propagande sur tout un tas de fantasmes qui développent dans les médias autour de la ZAD comme une zone de terreur, de non-droit, etc. Et du coup, lui a déclaré publiquement, a fait une lettre ouverte au ministre de l'Intérieur comme quoi il fallait interdire ces formations. Bon, lettre qui n'a pas été suivie des faits, puisque de toute façon, là, on va dire que la police ne rentre plus sur la zone. Et voilà, et on s'est un peu foutu de sa gueule parce que lui cherchait évidemment à donner une image de camp d'entraînement terroriste. Bon, c'est quand même assez décalé d'une réalité où il y a des gens, de la réalité du mouvement anti-aéroport, quoi, c'est-à-dire des gens de tout âge, d'un peu partout, des gens du coin qui viennent à ces formations et qu'entendent résister physiquement, effectivement, c'est quelque chose qui est assez assumé de plein de manières, comme ça a été le cas en 2012 lors de l'opération César, c'est-à-dire des barricades, des gens sur les routes, des gens dans les maisons, des gens dans les arbres, etc. Et puis c'est ça un peu qui se met en place avec aussi un peu toutes les structures qui avaient servi lors de l'opération César, que ce soit des structures médicales, de communication, légales, encore une fois. Et puis voilà, des paysans qui sont en train de préparer leurs tracteurs pour pouvoir entourer les maisons et les fermes. Et en même temps, malgré cette menace, je crois qu'on a décidé jusqu'au bout de se dire que il réussirait pas et que la ZAD allait continuer. Et du coup, en parallèle de ces préparations à la défense, on n'est pas tétanisé non plus. Toute cette semaine, il y avait un chantier patate, une bibliothèque qui est en train de s'installer, il y a des nouvelles maisons qui se construisent. Du coup, la bibliothèque a été inaugurée la semaine dernière, il y a un nouveau point d'accueil sur la zone. Bon, il y a tout un tas de ce qui fait la vie et la magie du quotidien sur la zone qui continue, mais effectivement dans une atmosphère un peu plus tendue néanmoins et avec des appels. Et peut-être si on peut dire un mot un peu des appels qui sont faits en direction des comités, pour rappeler qu'il y a un peu plus de 200 comités là, qui se sont organisés en France depuis l'opération César, en solidarité avec la lutte de Notre-Dame-des-Landes et contre l'aéroport et en soutien à la ZAD. Et il y a des appels notamment dans la région Loire-Atlantique en cas d'attaque de la zone, non seulement à venir sur place, mais aussi à bloquer les flux, à faire comme une espèce de grève générale, mais ça va d'appel à des blocages des lycées, à des blocages des ponts, etc. Enfin, à exprimer très largement une colère et une volonté que ça se passe pas comme ça. Et bon, du coup, ça fait aussi que pas mal de comités un peu partout en France commencent à se réunir et à s'organiser pour mener des actions en parallèle en cas d'attaque de la zone.
Ouais, chez nous, effectivement, là, à Dijon, il y a une réunion qui va prendre place aux tanneries le 24.
Quoi, c'est ça ? 24 septembre.
Voilà, à 14h aux tanneries avec, pareil, une discussion, je crois, un peu une présentation de ce qui se passe sur place et puis un goûter. On s'est dit, bon, voilà, pas mal de choses qui auront lieu et tout ça un peu pour réunir les forces. Il y a effectivement un bus qui part depuis la Franche-Comté, je crois. Et on a l'impression, effectivement, qu'il y a aussi la presse qui joue un fort rôle de préparation du terrain à une expulsion. On a lu que, voilà, dans Ouest France, il n'y a pas longtemps, là, effectivement, cette histoire d'arrêté de déplacement du campagnol. Là,
campagnol amphibie, ouais.
Campagnol amphibie. Et parce qu'on sent que la presse dit ça, quoi, qu'à la fois les flics sont prêts, le gouvernement est prêt, la préfecture, enfin tout est prêt, les médias sont prêts, etc. Et qu'en même temps, dans le même temps, la presse dit, mais est-ce qu'ils vont oser assumer un truc comme ça, quoi, à moins d'un an des élections présidentielles, est-ce qu'ils ont la capacité et la volonté d'assumer ce rôle-là? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté, là?
Eh ben, en fait, c'est effectivement très dur à déterminer. En fait, quelque part, comme je le disais, le fait qu'à un moment, des gens s'organisent, là on va entrer dans une période électorale, on va retrouver un grand cirque, on va chercher à nous faire croire qu'on parle de politique alors qu'on parle de propagande de partis, de petits arrangements entre notables, de choses qui, à tout un tas d'égards, désintéressent très clairement toute une partie de la population. En parallèle à ça, on sent de plus en plus et une crise sociale, environnementale, un sentiment d'impasse et un besoin de chercher autre chose, d'autres formes de vie, d'autres formes de liens, d'autres formes de production qui sortent de l'économie et de tout ce cirque gestionnaire. Et à un moment, à ce niveau-là, la ZAD, c'est devenu aussi un emblème, c'est devenu un symbole, c'est devenu aussi, dans cette période assez glauque qui se prépare autour des élections, un endroit où effectivement des gens concrètement s'organisent pour vivre autrement, pour repenser autrement ce serait des idées politiques, des formes de vie, des formes libres, etc. Et ça, c'est quelque chose qui leur est insupportable, tout comme ça leur est insupportable de laisser penser que des projets aussi nuisibles que leur aéroport, mais aussi tout un tas d'autres choses, que ce soit le centre d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, et les gaz de schiste, mais aussi un pseudo éco-quartier à Dijon, que ce genre de projet puisse être mis en échec à la base par des gens qui n'en veulent pas. Et Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi devenu le symbole de ça, de la possibilité d'arrêter leur projet et de vivre autrement. Et à ce niveau-là, c'est quelque chose que eux sentent très fortement la nécessité de stopper. Ils l'ont dit et redit maintes fois. Et en même temps, c'est vrai que ils ont été bloqués dans cette volonté-là au cours des 4 dernières années. C'est pas la première fois qu'ils menacent d'expulser. Alors là, on sent que la menace est un peu plus pressante. Et en même temps, c'est vrai que si on n'est pas tétanisé, c'est parce qu'on sent aussi que ça va être extrêmement dur pour eux, voire impossible, parce que effectivement, la ZAD est devenue tellement emblématique qu'on sait que c'est s'ils attaquent une intervention maintenant, on le sent, on l'espère et on y croit, ce que ça va déclencher, c'est aussi une forme de mouvement à travers toute la France qui va pour le coup poser d'autres questions politiques, qui va renouveler des formes de résistance, qui va peut-être aussi se connecter avec ce qu'a pu être le mouvement contre la loi travail pendant des mois au printemps, et avec une volonté de prendre la rue, d'affirmer d'autres manières de vivre, et je pense que c'est quelque chose qui leur fait très peur aussi, ce que pourrait déclencher une nouvelle opération César à ce niveau-là, et ils savent que ça dépassera de loin le périmètre des 2000 hectares de bocage sur lesquels on vit. Et voilà, du coup, bon, on ne sait pas, et je pense que peut-être même de leur côté, la décision n'est pas encore prise, et que c'est quelque chose qu'ils sont en train de peser politiquement, le danger finalement que ça représente pour eux, peut-être d'un côté de laisser cette zone emblématique, cette zone d'espoir persister, et de l'autre côté le danger peut-être encore plus grand que ça signifierait d'essayer de la détruire une nouvelle fois. Et là, je pense qu'aujourd'hui, et c'est aussi là-dessus qu'on communique, on est là pour dire qu'on peut encore peser dans la balance par tout un tas d'actions, de pressions, de messages de solidarité, pour dire mais ne le faites pas, vous êtes fous, ne le faites pas, vous allez vous planter, et faire en sorte que s'ils le tentent, ils se plantent effectivement.
Ok, ben merci pour toutes tes précisions. J'imagine qu'on se retrouvera peut-être là-bas, le 8 octobre. En tout cas, je pense que TVNR sera sur place, et notamment pour rendre compte aux gens à Dijon là, qui écoutent l'émission, et puis voilà, pour prêter main forte.
Ouais, on invite vraiment très largement les Dijonnais, les auditeurs de Radio Campus qui seraient pas encore venus sur place, qui n'auraient pas eu l'occasion de dire là, c'est le moment ou jamais. On appelle vraiment en plus les gens le 8 octobre, ça va être une manif qui va traverser la zone. Les fermes, les cabanes, il va y avoir des constructions sur place. Encore une fois, cet appel à venir avec des bâtons. Et puis c'est le moment aussi de se connecter à ce lieu-là, qu'on va peut-être appeler à défendre dans les jours qui suivront. Et voilà, c'est le moment ou jamais. Venez voir ce qui se passe là-bas. Et en tout cas, merci d'avoir nous avoir sollicité pour
ouais,
donner
cool.
quelques infos là-dessus. Et puis voilà, faut défendre la ZAD.
Ouais, donc l'idée c'est de venir le 8 et puis de rester quoi. C'est un peu ça que tu,
ouais,
que tu dis.
Ouais. Voir avant s'ils sont assez fous pour tenter une opération d'expulsion avant le
8, ouais.
le 8 octobre. Mais en tout état de cause, ouais, venez le 8 octobre et préparez-vous à revenir ou à rester s'il y a quelque chose qui vous touche dans ce qu'exprime la ZAD aujourd'hui.
Ok. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Hein.
Et alors, on se voit le 8 octobre, sûrement.
Très bien.
À bientôt, Nico. Salut.
Salut.
Je lève mon verre à l'inconnu qui s'ouvre à nous, à cette brèche ouverte par un beau printemps, à ces rues auxquelles nous avons tant pris goût, à ces piquets, ces grèves, ces cortèges exaltants. Je lève mon verre à ceux qui passent les nuits debout, bloquent fac, usines, lycées et battent le pavé. Aux enragés, aux insensés, à tous ces fous qui tendent vers l'horizon d'une vie ingouvernée. D'une époque de frissons qui s'ouvrent sous nos pieds et d'un grand précipice duquel s'élancer, d'une aventure qui semble les emporter vers les rives d'une vie sans cesse improvisée. Je lève mon verre à ceux qui ne rentreront plus, dans les cases, dans les pièges qu'on nous a tant tendus. Et pour qui l'élection, partout tant attendue? ne préoccupe guère plus qu'un poil au cul. Voilà, c'est la fin de Vacarme en Réunion pour ce dimanche. Donc Vacarme en Réunion, ça reprend toute l'année et on se retrouve à 16h tous les dimanches sur les ondes. Quant à le mouvement plus général de ce qui se profile dans la rue, dans les champs, dans les facs et partout, et ben on sent que c'est de nouveau une belle année qui s'ouvre et que même si, comme ils l'ont plus ou moins annoncé, la CGT et Force Ouvrière vont arrêter d'appeler des manifs contre la loi travail, on sent qu'il y a d'ores et déjà une multitude de rendez-vous qui s'ouvrent pour se retrouver et pour s'inventer ensemble des vies meilleures, que ce soit sur la fac, où vous pouvez passer au local autogéré sur lequel il va s'y dérouler plein de choses cette année, que dans tous les lieux de la ville dans lesquels il y a d'ores et déjà des résistances qui se tissent, comme sur les lentillères, comme aux tanneries, comme dans la rue à de multiples occasions. Et puis pour commencer, on se retrouve le 22 septembre au soir pour boire l'apéro ensemble dans le Square des Ducs et parler de cette année qui s'ouvre. Le 24, aux tanneries pour parler de la ZAD. Le 8, sur la ZAD elle-même, on peut partir ensemble là-bas. Et puis voilà, vont s'enchaîner comme ça toute cette année. Tu veux rajouter quelque chose ? Alors, personne ne veut rien rajouter. Alors à la semaine prochaine.